Radio Champeau.
La radio étudiante de l'Université Champollion d'Albi.
Le jeudi à 16h sur Radio Albigès.
Et suivez-nous sur notre page Facebook Radio Champeau.
Alors bienvenue à toutes et à tous chers auditeurs sur Radio Champeau. Je suis Lucas, l'host de cette émission. Je suis accompagné aujourd'hui de Marie-Lou. Bonjour Marie-Lou.
Salutations.
Wow. Et Aliénor. Bonjour Aliénor.
Salut.
Pour une fois que tu chantes pas. On va commencer cette émission.
Je retiens.
Wow, ça commence sur les chapeaux de roue. On va commencer d'abord cette émission avec l'association Ivre d'équilibre qui va nous rejoindre. Puis on va enchaîner avec la chronique de Marie-Lou en print historique qui revient pour un tout nouveau épisode cette semaine et qui va nous parler de quoi cette semaine ?
Qui va parler tout simplement de la figure de Bernard de Castanet.
Wow.
Oh là là,
ça sent la personne en fait,
intéressante ça.
Et ensuite, Aliénor qui va nous parler donc de sa passion primaire. J'ai bien dit primaire. Ouais, et Aliénor, du coup, je te laisse la nommer.
Le chocolat, waouh.
Mais c'est bien, on lance de la hype pour ce début d'émission. Et bien sûr, comme à l'accoutumée, on va finir par ce qu'on a apprécié cette semaine avec nos recommandations culturelles. Et donc, pour commencer cette émission, on reçoit aujourd'hui l'association Ivre d'équilibre et on commence cette interview avec Aliénor.
Bonjour. Alors, à côté, il y a Kouka et Maï qui font partie de l'association Ivre d'équilibre. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que l'association Ivre d'équilibre, s'il vous plaît ?
Ivre d'équilibre, donc, c'est une association promouvant les arts du cirque donc sur Albi. Donc, à Albi, on n'a pas du tout de cirque à part à la maison de quartier de Cantepo, voilà. Mais c'est des cours qui sont pour les plus petits, donc soit primaire, soit pré-ado-ado, mais jamais pour les adultes. Du coup, en arrivant sur la fac en 2018, j'ai constaté qu'il n'y avait aucune asso qui promouvait en fait cet art-là. Et du coup, je me suis décidée à créer cette association pour, premièrement, du coup, les étudiants d'Albi qui ont du coup mon âge de pouvoir faire et découvrir cet art-là, et puis après plus largement des adultes, personnes de la fac ou autres adultes d'Albi. Voilà.
Okay. D'accord. Et du coup, depuis quand elle existe, cette asso ?
Elle a été créée officiellement en juin 2019.
Okay.
Donc elle a presque 2 ans.
Ok, ça fait pas mal déjà. Voilà. Pour une asso de fac, c'est pas mal.
Oui, elle est assez récente. Et pourquoi avoir créé cette association ?
Pourquoi la
de base
parce qu'il n'y avait pas de cercle sur Albi. Okay. Du coup, je voulais pouvoir continuer à m'entraîner et pouvoir mettre à disposition en fait, mes connaissances.
Et les partager avec tout le monde. Et
exactement.
Pouvoir apprendre des petits tours. Et quel est votre parcours, vous deux ?
Du coup, moi, j'arrive de Montauban. Oui. Voilà, enfin, ma famille est de Montauban. Je suis venue du coup, faire mes études à Albi en sociologie. Du coup, je suis en 3e année de sociologie.
Okay.
Et ça fait 6 ans que je fais du cirque.
Ok. Voilà.
Et pour ma part, je viens de Villefranche-de-Rouergue, qui est située en Aveyron, qui a été tout le début de mon parcours. Et je suis arrivé sur Albi il y a 2 ans. Donc je suis actuellement maintenant en L2, aussi au sein d'Ivre d'équilibre, que j'ai rejoint un an après, dans quelques mois après que tu l'aies créé, c'est ça.
Okay.
Et depuis... Je suis là, je reste.
Ouais, je reste. Okay. Et concrètement, c'est quoi les activités que vous faites avec Ivre d'équilibre ?
Alors, on peut proposer à peu près toutes les disciplines circassiennes. Il faut savoir qu'il y a 3 grandes familles. Donc, la jonglerie, les équilibres sur objets, donc tout ce qui est monocycle, boule, fil d'Ariane, etc. Aussi. Les échasses.
Okay.
Ouais.
L'acrobatie,
okay.
Le clown. Mais qui est un peu une discipline à part quand même du cirque, c'est vu qu'il y a encore plein d'autres disciplines à l'intérieur du clown, plein de courants, etc. Mmh. Et tout ce qui est aérien, voilà. Et sauf que de ces 5 familles-là, on ne peut pas faire juste de l'aérien, vu qu'on n'a pas de structure, on n'a pas de portique pour pouvoir accrocher trapèze, tissu, corde, voilà. Donc en fait, voilà, on fait un peu de tout, donc principalement jonglerie, équilibre sur objet et acrobatie.
Okay.
Un peu de clown maintenant, et voilà.
Ok, ça fait pas mal.
Ouais, vous êtes un peu diversifié, c'est sympa.
Ouais, il en faut pour tout le monde, je pense.
Tout à fait.
Comparé avec ceux qu'on avait au départ, qui étaient juste des massues, quelques anneaux.
Ah oui, ouais, d'accord.
Et là, du coup, vous avez plus de matériel.
Et maintenant, on a des tapis, de sol, des tapis de réception, donc où on peut chuter dessus. On vient d'investir dans 4 paires d'échasses, donc c'est quand même un sacré investissement. Parce que... quand même. Voilà.
Et du coup, avec la crise sanitaire, vos activités, comment elles sont, enfin, ça a diminué, enfin, ça sont un peu rétractées?
Ah bah...
Elles ont plongé dans le néant, en fait. Tout simplement.
C'est un peu l'idée.
Il faut plus sortir, il faut avoir les masques, alors que c'est un domaine quand même sportif.
Ouais.
Donc, très handicapant.
Et puis même, les dates qu'on... devait avoir en septembre, bah, elles ont pratiquement tout été annulées. On n'en a pu faire que deux. Ouais. Une à Pampelonne, voilà, début septembre, où c'était encore un peu accepté. C'était un festival un peu privé. Donc voilà, on a pu se produire à ce moment-là. Et à Rue d'été, donc à Groyé, on a pu présenter le cabaret parce que le festival avait été maintenu. Mais à part ces deux dates-là, bah, on avait plus. Et tout annulé au fur et à mesure. Voilà. Pour l'instant, la seule date qu'on est, c'est pour... août 2022.
Waouh.
Ah oui.
Ah ouais, c'est
loin.
C'est août 2022 jusqu'à l'année prochaine, en fait, carrément.
Ouais, ouais.
Finesse,
un mariage.
Ah. Oui, c'est ça. En voilà. Termes de date, c'est plus ou moins ça.
Voilà, voilà.
Et est-ce que c'est fermé aux étudiants ou est-ce que c'est tout public, tout le monde peut l'intégrer?
De base, on vise plus les étudiants, vu que ça reste une asso étudiante, voilà, qui a émergé grâce à la fac, etc. Donc on tient en fait à avoir un public étudiant, c'est le principal public. Mais il est vrai qu'il y a d'autres adultes et jeunes d'Albi qui viennent, qui ne sont pas étudiants, mais qui habitent à Albi et qui aiment cette discipline.
Ok, donc ils peuvent très bien en faire sans étant part de l'association.
J'ai pas compris la question.
Des personnes qui viennent voir et qui ne sont pas vraiment étudiants sur Albi.
Ah oui, ils peuvent
venir intégrer l'association. Ouais. Ok.
Et du coup, vous êtes venu ici pour nous parler d'un événement qui se fera le 7 avril. Si
exactement.
Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît?
C'est dans le cadre de l'UO Animation du Campus que j'ai cette année à valider. Et donc, on a décidé de faire l'événement Circus Party, qui sera le 15 avril, le jeudi 15 avril de 14h à 18h. Et ça correspond à essayer de montrer aux étudiants, principalement, de Champollion ou éventuellement d'autres étudiants qui seraient intéressés par ça, de découvrir tout ce qui a pu être énuméré, tel que les échasses qu'on a eues récemment, tout ce qui touche à l'équilibre, donc le monocycle, fil de fer, rollabola éventuellement, la jonglerie avec les massues, les boules, les balles, pardon.
Les foulards aussi.
Et oui, les foulards.
Foulards, des boulots.
On a décidé aussi de faire un espace clown. Pour ceux qui seraient tentés.
Ouais.
Ça diverge quand même un peu de ce qu'on a, par exemple, ici déjà, je sais qu'il y a un club de théâtre. Donc éventuellement, ceux qui sont tentés par le théâtre, ça peut, pourquoi pas, ramener vers le clown. Et enfin, on aura un pôle acrobatie pour tout ce qui est amener les matelas et apprendre à faire de l'acro-yoga, puisqu'on a déjà assez de travail là-dessus au préalable, qu'on pourra montrer. Et faire apprendre.
Ok.
Ouais, voilà. Les équilibres aussi, de différentes manières, etc.
D'accord. Ok.
Et c'est quoi l'acro-yoga?
Tu veux l'expliquer?
L'acro-yoga, donc c'est de l'acrobatie, on va dire, douce. Ça se fait du coup souvent à deux, donc avec une base qui est au sol, parce qu'on a principalement, on va dire, deux sortes de bases, soit debout, donc ça s'appelle des colonnes, où les personnes montent sur les épaules de l'autre, et des bases au sol, où les personnes sont généralement allongées sur le dos et portent le voltigeur, donc la personne qui fait les acrobaties, sur les pieds.
Oui.
Voilà.
Okay.
Et du coup, l'acro-yoga, c'est des figures, en fait, des mouvements qui sont souvent beaucoup plus doux que l'acrobatie pure, qui est assez dynamique et explosive, de faire quand même... des acrobaties, en fait, mais beaucoup plus calme, on va dire.
Okay.
Donc, je pense que pour une initiation, on s'est dit comme quoi c'était peut-être mieux de faire quelque chose d'un peu doux et peut-être quelques acrobaties un peu dynamiques, mais sans... Enfin, c'est une initiation, donc...
C'est une initiation, c'est un truc assez simple.
C'est l'appréciation de chacun aussi, sur les bases que la personne a.
Si c'est un peu à l'écoute de son corps, non?
Oui, c'est ça. S'ils se sentent de faire des trucs très dynamiques, pas de souci, on va les guider et on va leur apprendre à faire des trucs dynamiques.
Ouais.
Mais dans un premier lieu, on va leur dire, bon... On teste ça, ça te plaît,
un peu plus chill.
Ouais, voilà, c'est ça.
D'accord, ok.
Évolutif.
Et c'est assez étonnant d'entendre parler d'un événement, surtout à cette période en pleine crise sanitaire. Comment ça s'est passé, la mise en place de cet événement? Comment vous êtes débrouillé pour créer tout ça?
Alors, pour lancer le projet, ouais. Déjà, il a fallu chercher, parce que il faut savoir qu'on a eu le deuxième confinement, au moment où il faut choisir son UO
et
surtout l'animation, l'animation du campus. Ouais. Donc, on se dit, on est confiné, il va falloir animer le campus.
Ouais.
Ok.
Ouais. Okay.
Le challenge. Donc, déjà, il fallait chercher une date qui soit au maximum poussée vers justement ces dates-là, mars, avril, pas plus loin, parce qu'après, il y a les partiels, donc on sait qu'il n'y aura personne. Donc, on tâte un peu dans le vide.
Ouais.
On voit que ça peut passer, puisqu'on avait quelques pressentiments que le second confinement allait se terminer. Bon, là, on a toujours le couvre-feu, mais de toute façon, ça rentrera dans le 14-18 heures. Mmh. Et puis voilà, ça se met en place, on voit que ça passe. On essaie d'avoir tout ce qui est masque, mesures de sécurité au niveau de l'hygiène, donc le gel hydroalcoolique et les bornes. Ouais. Et ça passe, pour l'instant.
Ok.
Très bien.
J'espère que ça va se faire.
Et surtout que si jamais on peut le reconduire en fait plus tard, s'il ne se fait pas cette année, bon, ben, on pourra le reconduire à la Cour des Miracles par exemple, ça a été une des propositions, ou même plus tard dans l'année. Enfin,
c'est pas un projet de perdu quoi.
Oui c'est ça, on sait qu'un jour ou l'autre ça va.
On pourrait le faire cette année quoi.
Voilà, et si on peut le faire et cette année scolaire et,
les précédentes
et plus tard, nous on veut bien le reconduire.
Ok, je meurs.
Et où est-ce qu'on peut vous trouver? Vous avez des Instagram, des Facebook, des...
Eh bien... On a tout.
Oh, wow.
C'est peut-être la meilleure réponse qu'on ait eue.
Et vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Ivre d'Équilibre. Ouais. Pareil sur Instagram, Ivre-du-bas d'Équilibre. On a aussi une chaîne YouTube, du même nom encore, où quelques vidéos ont déjà été postées sur des tutos pour apprendre à jongler, notamment à 3 balles.
J'allais vous en parler, je trouvais ça trop cool.
On a aussi le teaser qui a été fait... pendant les beaux jours, quand on pouvait encore sortir.
J'ai vu ça,
pour la promotion
c'est ça.
De l'année scolaire.
Ok, d'accord. Et du coup, oui, sur YouTube, j'ai vu que vous étiez présent. Vous faites des tutos pour l'instant. J'ai vu qu'il y avait un tuto. Vous allez continuer ça ou, pendant, pour toute la période de crise sanitaire ou même ça, vous continuez?
Bon, on va le continuer, oui. Là, c'était vraiment... c'est ça, comment dynamiser en fait la discipline alors qu'on ne peut pas se voir, tout en gardant du lien avec les... les adhérents de cette année qui ont pu voir que 2 mois de cours, voilà, septembre, octobre, après fini, quoi.
Ouais.
Ok, et du coup, on s'est dit, bon, ben, on va vraiment faire quelque chose sur YouTube, des tutos. Donc, on a tourné du coup le tuto Apprendre à jongler à 3 balles qui est sorti. Mm-hmm. Et après, je vous dis pas les suites, mais on en a 2 à prévision.
Waouh,
c'est classé confidentiel.
Oh là là, c'est secret.
C'est le suspense.
Ok, donc tenez-vous bien, hein. 2 petites vidéos qui
tenez-vous bien. Soyez prêts. Ok.
On se met pas de rythme pour faire bien les choses. Voilà, on se dit pas une vidéo toutes les semaines, parce que sinon, je pense qu'avec tous nos programmes, on va pas tenir. Mais voilà, ça arrive.
Ok.
Ouais, tuto d'apprentissage et de fabrication de matériel.
Oh.
Ah, ça fait
les deux.
Ouais, on va faire ça. Comme ça, les personnes qui n'ont pas de matériel, fabriquer des balles, des ustensiles.
Pour pouvoir s'entraîner à la maison.
Ça va être pratique aussi quand tu crées toi-même les choses, ça n'a pas besoin de les acheter.
Ouais. Pour les étudiants, surtout en ce moment, c'est pratique.
Tout à fait.
Et bien, merci beaucoup à vous.
Merci,
merci à vous
dans cette émission.
Et donc, petit rappel, c'est le 15 avril, la Circus Party. C'est ça.
De 14h à 18h.
Merci.
L'inscription près de Maï est fort.
Je vais envoyer un mail, c'est ça? Comment ça va fonctionner?
Ouais, les inscriptions sont par mail. Et. Pour l'instant, on peut encore accepter des personnes. Okay. Donc, c'est parti. C'est
toujours ouvert. Ok.
Ouais, très bien.
Et est-ce que vous avez des projets, du coup, pour la rentrée prochaine, déjà de prévu?
Du coup, on aimerait bien que cette association elle ait une visée, en fait, après d'école de cirque.
Okay.
Vu qu'il n'y a pas du tout d'école de cirque vraiment à Albi, alors que c'est quand même la préfecture du Tarn. Il y en a une à Mazamet, mais voilà, et sinon à Groyer. Mais voilà, rien sur Albi. Et du coup, là, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'à la laiterie, donc c'est une fabrique artistique qui est basée à Saint-Juéry, on est en train de rénover une salle pour pouvoir donner des cours à toute tranche d'âge, en fait. Du coup, là, c'est un petit peu notre bon boulot du moment, aller tout rénover, retaper, faire au propre pour accueillir des petits circassiens dès septembre 2021.
Ok.
Ah, ça va être intéressant. Et du coup, est-ce que vous avez des musiques à nous proposer, à écouter, ou des musiques coup de cœur que vous écoutez en ce moment?
des musiques.
Ouais, alors, ouais. C'est un peu notre tradition. On met un peu nos musiques coup de cœur et là, c'était
une musique spécifique, pas spécialement un artiste.
Absolument
tu
tout.
La, tu choisis la Absolument musique que tu veux. Tout. Si tu veux un artiste connu, tu mets un artiste connu. Si c'est pas connu, c'est pas grave. Tu mets ce que tu veux.
Je pense que si on fait ça à deux, on peut dire La Petite Fumée, oui, éventuellement.
Waouh.
Voilà.
Ça avance.
C'est, le choix a été rapide.
C'est quoi La Petite Fumée?
C'est un groupe du coup de psy trance un peu techno, ils ont okay commencé avec des musiques
oui,
très acoustiques.
En fait, oui, bien sûr. Oui,
voilà. Et maintenant ils ont inséré donc musique acoustique avec
des
électro etc et ça donne un mélange vraiment sympathique.
Ah, c'est okay sympa. Donc du coup qu'on le groupe c'est La Petite Fumée et vous avez une chanson particulière que vous aimez bien?
Tu te souviens des titres?
Thunder Boys.
Ouais, voilà. D'accord. Et moi j'aime bien See You.
See
voilà.
You.
Non, Simi. Simi,
Simi ou Simi. L'un ou l'autre.
Maï, tu confirmes.
You Simi d'ailleurs, oui, je crois que c'est
confirmé.
Ça.
Après, si You Simi, je pense
je crois que c'est même si... You Simi.
Oui, You Simi.
Ouais, je crois qu'il y a les deux en vrai dans le jeu.
Alors, on va bien chercher.
Deux mots.
Bah, on porte ça, tu vois. On met ça.
Ah ouais. Ouais. Allez, go, c'est parti. Ouais.
Alors, vous venez d'écouter You See Me de La Petite Fumée, qui est du coup la recommandation musicale d'Ivre d'Équilibre, qui
c'était
est toujours avec
bien.
Nous sur Radio Champeau.
Bah, merci beaucoup pour votre venue, pour cette beaucoup. Interview, c'était très intéressant.
Merci.
Ça fait plaisir d'entendre des nouvelles choses qui se créent. Mais on va continuer cette émission du coup avec Empreinte Historique, la chronique de Marie-Lou. Bonjour Marie-Lou, rebonjour Marie-Lou.
Rebonjour.
Rebonjour.
Et du coup, je te laisse nous parler de ce que tu as à nous dire.
Parfait. Bon, déjà, il faut savoir que je suis étudiante en histoire et dans le cadre de l'unité d'enseignement VPHN, qui signifie valorisation du patrimoine et humanité historique, ne me demandez pas ce que ça veut dire, que, je vais que je vais présenter aujourd'hui. Mais du coup, je profite de mon émission de radio, enfin de mon émission Empreinte Historique, pour vous présenter tout simplement cette chronique sur un personnage qui a véritablement enrichi le patrimoine d'Albi, et qui a notamment été l'investigateur de la construction de notre belle cathédrale Sainte-Cécile. J'ai nommé Bernard de Castanet.
Mais du coup, qui est Bernard Castanet ?
Alors, un peu de patience, s'il vous plaît. Avant de vous parler de cette figure, il faut que je replace un petit peu le contexte de l'époque. Nous sommes alors au XIIIe siècle, plus exactement en 1240, où, dit-on, il existait une grande tolérance épiscopale à Albi. En d'autres termes, en fait, l'hérésie cathare prospérait. Jusqu'à ce que Bernard de Castanet prenne place à Albi, du coup, en tant qu'évêque, ses prédécesseurs n'ont provoqué aucune mesure pour faire changer ou évoluer la situation de ces hérétiques sur Albi. Ces derniers ne voyaient pas du tout d'avantage à tirer sur une éventuelle persécution de leur part. La majorité de ces hérétiques faisant partie en fait de la haute oligarchie. Donc l'oligarchie, c'est un régime politique dans lequel le pouvoir appartient à un petit nombre de personnes de la cité. C'est en 1276 que le pape Innocent V, oui Innocent, désireux de faire évoluer la situation, désigne un homme réputé pour sa forte poigne et son indéfectible loyauté à la cause catholique. J'ai nommé Bernard de Castanet. Ce dernier prend d'ailleurs place physiquement à Albi, enfin physiquement au siège d'Albi, en janvier 1277. Lors de son arrivée, le pouvoir de l'évêque est alors très affaibli et ce dernier décide alors d'asseoir son autorité pour mettre en place une politique de reconquête du pouvoir et il en profite également pour réaliser la construction ou la continuité de construction de bâtiments imposants et ainsi l'utilisation de son pouvoir inquisitorial.
Est-ce que tu as des exemples, s'il te plaît, de ces bâtiments ?
Parmi, je peux en citer deux. Et parmi les deux bâtiments les plus importants, il y a le palais de la Berbie et la cathédrale Sainte-Cécile.
Trop bien !
Donc, le palais de la Berbie, il se voit donner la priorité des travaux, car sa construction a déjà été entamée par ses prédécesseurs. Et ensuite, en fait, il a assuré la construction d'une toute nouvelle cathédrale, la Sainte-Cécile, utilisant d'ailleurs la brique rouge, très caractéristique d'Albi, comme matériau, qui est véritablement un petit symbole de notre ville.
Et elle ressemble un petit peu à une navette spatiale, genre le boule.
C'est les aliens, c'est ça que tu es en train de dire ?
Non.
Mais du coup, c'est quoi le lien avec l'hérésie que tu parlais au début ?
Justement, j'y viens. Parce que le projet phare de Bernard Castanet, justement avec l'établissement de ces deux constructions, c'est bien son combat contre l'hérésie cathare. Et en conséquence, l'élite locale, qui sont toutes deux étroitement liées. Il décide de mener durant son épiscopat, donc sa fonction d'évêque à Albi, de 1276 à 1308, ce qu'on appelle une politique inquisitoriale. Une première campagne inquisitoriale a commencé en 1285 et a mené à un premier procès contre les hérétiques entre 1286 et 1287. Et le résultat de ce procès est vraiment une réussite pour Bernard de Castanet parce qu'on compte pas moins de 206 enregistrés qui ont été jugés pour crime d'hérésie. Ce qui, à l'époque, pas mal. C'était puni assez durement. Un second procès est mené entre 1299 et 1300. Les accusés y étaient principalement des bons hommes qui avaient su échapper aux inquisiteurs. Les interrogatoires menés lors des deux procès ont révélé que la plupart des grandes familles de la cité comptaient beaucoup d'amis de bons hommes, qui sont en fait un terme pour tout simplement désigner des hérétiques. Cela marque alors l'apogée de l'inquisition de l'évêque.
Et personne ne s'est plaint juste après ?
Ben, si, justement, parce que en 1280, se forme alors, en réponse à la campagne inquisitoriale de l'évêque, une ligue anti-inquisitoriale qui entreprit auprès du roi de France des démarches contre l'inquisition. Une première fois, le roi Philippe le Bel dut intervenir afin de trancher cette affaire. Avec l'aide de l'inquisiteur de Carcassonne, Bernard de Castanet, entre décembre 1299 et mars 1300, procède à des arrestations et un procès incriminant alors 35 accusés, en plus des 206 qui étaient du coup déjà jugés. Dans les mois suivants, des arrestations ponctuelles instaurent un véritable climat de terreur et accentuent alors le ressentiment de la population. Il a réussi à démanteler le réseau des croyants cathares sur Albi. Par contre, Philippe le Bel a dû intervenir une seconde fois. Alors qu'il était en conflit d'intérêts avec l'Église, il accorde alors ses faveurs aux Albigeois, dont la Ligue anti-inquisitoriale, sans toutefois accepter les hérétiques et accepte de libérer les prisonniers. Il ordonne à ses officiers de s'opposer systématiquement à chaque ordre que pourra donner Bernard de Castanet et déclenche alors une enquête royale envers ce dernier. C'est en 1307, par l'intermédiaire de deux chamoines, que le pape Clément V intente un procès à l'encontre de Bernard de Castanet. Il est accusé alors de graves crimes, comme la simonie, c'est-à-dire le vol d'objets religieux, viol, cruauté systématique dans l'exercice de la justice, homicide, dilapidation et tant d'autres.
Il y a tout en fait.
C'est ça. Face à lui, se tiennent pas moins de 114 témoins, tous à charge contre l'évêque. Incommodé par la tournure du procès, le pape suspend le procès et classe très très rapidement cette affaire. La sentence de Bernard de Castanet a été sa mutation à l'évêché de Puy-en-Velay en 1308, bien moins prestigieux et riche que celui d'Albi, bien évidemment. C'est ainsi que s'achève l'histoire de Bernard de Castanet, du moins son histoire à Albi. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant ce personnage, on vous mettra tout simplement à disposition sur les réseaux sociaux des informations complémentaires.
Eh bien, merci Marie-Lou pour cette passionnante chronique d'Empreintes historiques, ce nouvel épisode, ce deuxième épisode
Troisième
épisode.
Ah ouais.
À Radio Champo.
Jamais 203.
Jamais 203, c'est vrai. Et maintenant, on va passer à notre première... notre seconde pause musicale avec une chanson que tu as choisie, Aliénor.
Oui, c'est ça vient du groupe de Sexy Can et c'est Cuarto de la Banda. Donc c'est C-U-A-R-T-O de la Banda.
Plus compliqué la prochaine fois, s'il te plaît.
Tout à fait. Ah, quand tu veux.
As they're loading in the pit.
Et du coup, c'était The Quarto de la Bonta du groupe de Sexy Can. Et j'espère que vous avez apprécié.
On a ça nous a énormément plu.
Que de la
mais maintenant, on va passer à ta chronique, Aliénor. Je crois que tu voulais nous parler d'un ingrédient particulier.
Bah, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est sur le chocolat.
Chocolat. Après, nous avons parlé de tarte à tatin la semaine dernière.
Ouais.
Tu veux nous parler de chocolat cette semaine.
Ta passion.
Manger, c'est bon et j'aime bien faire avec.
Manger, c'est bon. C'est tout ce qu'on peut retenir de ta chronique pour l'instant. Manger, c'est bon.
Ok. Donc, le chocolat existe depuis 4000 ans. Et c'est plutôt déconné dans l'Antiquité Mésoamérique. En gros, c'est plutôt au niveau du Mexique et de l'Amérique latine. Alors, le chocolat est fait de fèves de cacao. À la base, c'est une fève de cacao qui est récoltée. Elle est ensuite fermentée, torréfiée, ébroyée, puis transformée en pâte de cacao qui est liquide. Et on récupère souvent de la matière grasse, et c'est ce qu'on appelle le beurre de cacao. Donc, il y a la pâte et le beurre de cacao qu'on peut retrouver dans la cuisine également pour faire cuire des choses. Donc, le chocolat, c'est un mélange de pâte, de beurre et de sucre. Parce qu'il y a le beurre de cacao et la pâte pour vraiment que ça prenne et pour qu'il y ait une sorte de consistance, et le sucre pour un petit peu l'alléger. On peut également ajouter des épices, par exemple du piment, du poivre, enfin des choses
chocolat
comme ça.
Chocolat au piment?
Oui, ça existe. Chocolat piment, c'est trop bon, t'as même pas idée. Ah bon, je m'emballe. Okay. Ou des matières grasses végétales comme la noix de coco. Ou sinon de la vanille, ça peut très bien marcher.
Ouais.
En fait, tu peux tout faire avec, c'est assez libre. Avant, c'était aussi également une boisson épicée qui s'appelait le xocail. Et c'était au Mexique, en Amérique latine du coup.
À la base,
À la base, ouais.
À la base, le cacao, c'était utilisé pour une boisson.
Oui.
Ok.
D'où le chocolat chaud.
Ah, c'est vrai. Ah oui, du coup, oui.
Ah bah oui. Ah. Et le chocolat s'est démocratisé à la suite de la révolution industrielle, qui sont, révolution industrielle, qui s'est colonisée et a bougé partout ailleurs, quoi. Pour faire simple.
Ouais, pour faire très simple.
Oui.
Parce que c'est vraiment une longue période.
Et c'est au XVIe siècle qu'on a commencé à consommer le format liquide, et qui est très présent dans des desserts, également comme les fondants au chocolat, les mousses au chocolat. Enfin, je n'ai pas tout décidé parce qu'il y en a
vous.
Trop.
Mais oui.
Tu tirais Missou.
Hein. Non, t'avais dit que t'arrêtais.
Oh, man. Minutes. Pourquoi tu l'as raflé? Donc, il est notamment très présent dans certaines festivités, comme là, dans pas très longtemps, il va y avoir Pâques. Donc, oh là il y a les formes de cloches, de poissons. De coq, enfin, il y a plein de trucs, c'est trop cool. Après, c'est présenté sous forme de pièces pour une fête juive qui s'appelle Hanouka.
Oui.
Pour Noël, c'est plutôt sous forme de truffes qu'on va les retrouver. Donc, du coup, on fait fondre le chocolat, on le remodèle par derrière et on le met dans des moules, on le fait cuire, puis basta.
Et basta. C'est d'ailleurs ce que disent les cuistots quand ils ont terminé.
Ah, et basta.
C'est ça qu'ils disent.
Alors, pour le moment très cliché, bah, la Saint-Valentin, la plupart du temps, les chocolats sont en forme de cœur. On se demande pas pourquoi. Wow. Et d'ailleurs, Marie-Dou, t'as fait une chronique sur la Saint-Valentin.
Ouais, j'ai fait une chronique sur la Saint-Valentin.
Ouais, mais c'était pas le bon côté de la Saint-Valentin, vraiment pas.
Le bon côté, bon, ouais. C'est juste...
c'est une question de point de vue.
C'est juste la réalité derrière la fête de la Saint-Valentin.
En fait, on fait la fête de quelqu'un qui est mort. Avec...
C'est fait décapité, hein.
Ouais, voilà, c'est
bah
ça.
Oui,
j'adore. Oh, c'est trop bien, pardon.
Alors, soit c'est la fête de quelqu'un décapité, soit la fête où, en fait, on fouette des femmes nues. Pour les rendre fertiles. Voilà, c'est pas mal aussi. Ouais.
Merci de rappeler ce souvenir douloureux, Aliénor. Cette phase noire de l'histoire. Le chocolat là-bas, c'est des femmes. Elle fait un lien qui n'a pas de sens.
Exactement.
Elle fait 8 km.
Non, mais je crois que il y a Kuka et Maï doivent être choqués de dire mais qu'est-ce qu'on fait encore là? Oh là là. Enfin bref, je continue.
Ah bah ils sont en train de s'échapper, ça y est.
Oh, bah, attends, bah allez taper.
Non, dis pas ça. Ma note, il faut que je passe sur verre.
Ah oui, il faut que je passe sur verre, c'est vrai. Ok,
ma note.
Pour ta note, je me rattrape.
Le chocolat, donc.
Oui, le chocolat, j'allais continuer. Il y a aussi une fête, d'escalade qui se fait en Suisse, dans le canton de Genève, et c'est le chocolat en forme de marmite.
En forme de marmite de cuisine?
Bah oui.
Je sais pas, ça me paraît étonnant qu'il fasse une... Je sais pas, genre une marmite en chocolat, je sais pas, donc c'est pour ça que je te pose la question.
Ouais, mais là, je pense que c'est plus sur la marmite pour garder les plats au chaud et pendant qu'ils marchent.
Marmite de cuisson, quoi.
Ouais.
Ok.
Et attention, flash news, il existe plusieurs types de chocolat, mais ça je pense que tout le monde le savait, c'est pas une nouveauté. Hein. Alors le plus connu c'est le noir et c'est le meilleur, personnellement.
Ah, je vais me battre. Je vais me battre.
Non, c'est le meilleur.
Je vais me battre.
Non, non.
On va se taper.
Non, non.
Laisse-moi
terminer. Me battre,
mais je fais ma chronique là.
Je sais.
Alors le chocolat noir est constitué de cacao et de sucre seulement. Donc le plus intéressant... C'est ce qui est au-dessus de 65%, parce que là, ça a vraiment des bons effets au niveau du corps, ça élimine des toxines, ça a vraiment des bons
côtés. C'est un antidépresseur aussi,
ouais.
Je crois.
Tout à fait. Et ça te rebooste, enfin, t'es en mode, ouais, je suis trop content.
Grâce au chocolat.
Ensuite, pour la cuisine, on utilise plutôt du 50-60% à peu près, pour pas que ça soit trop fort ni trop corsé. Et en rayon de magasin, on trouve plutôt du 35%, mais c'est pas très intéressant. Il est trop sucré. Ça, c'est...
Le coup de gueule.
Non, du tout. Ensuite, il y a le chocolat au lait, qui est un mélange de lait, du lait en poudre et concentré. Non, je suis pas d'accord avec toi. Sauf pour les Milka avec les petites saveurs qui rajoutaient tout, là. Mais...
L'âme de lait entre
les... C'est dit avec amour, c'est trop drôle. Donc, ouais, il y a le chocolat au lait qu'on retrouve partout, avec différentes déclinaisons, genre aux noisettes, aux noix, au riz, enfin, bref.
Au riz? Ah oui, le chocolat au riz.
Croustillant.
Oui, c'est vrai, tu as raison.
Ouais. Miam. Et ensuite, il y a le blanc. C'est fait que de fat. C'est du beurre de cacao avec du lait et des arômes. C'est tout. Donc, okay. C'est pour ça qu'il est très dur et qu'il est plus pâteux que les autres. Quoi.
Ok.
Voilà.
C'était ta petite chronique sur le chocolat, c'est bon? Tu nous as parlé de ta passion primaire, comme je disais.
Bah ouais, ma passion primaire, bientôt c'est Pâques, donc il y aura plein de chocolat ramassé, tu crois?
Mais du coup, ah putain, si la semaine prochaine tu nous parles de Pâques, on va se retrouver avec
mais
une aliénor.
Mais pourquoi t'as balancé mon idée?
Ah, mais je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas, c'était ton idée.
Mais c'est pas grave, vas-y, on continue.
Radio Champeau, la radio étudiante de l'université Champollion d'Albi.
Suivez-nous sur notre page Facebook Radio Champeau.
Eh bien, merci beaucoup, Aliénor, pour cette chronique.
De rien, avec plaisir.
Ça nous a fait très plaisir. Troisième pause musicale, et c'est moi, c'est toi, qui ai choisi la musique, et j'avais envie de passer sur Radio Champeau la chanson The Riddle de Nick Kershaw, que j'écoute beaucoup trop en ce moment.
Yeah.
Vous êtes toujours sur Radio Champeau, on vient d'écouter The Riddle de Nick Kershaw. Et maintenant, on va passer à Aliénor qui va nous parler d'un webinaire qui va se passer dans pas longtemps.
Oui, tout à fait. En fait, c'est les étudiants de Master 1 Risque Environnement de l'INU Champollion qui vont organiser le mercredi 7 avril de 18h30 à 20h un webinaire en ergonomie. Donc il aura comme thème les innovations et nouvelles performances professionnelles. Il y aura deux conférenciers de présents, donc c'est ouvert à tous. Il n'y a pas vraiment d'accès restreint, donc c'est accessible à tout le monde. Ouais. Les inscriptions se font sur l'adresse mail conference.master@gmail.com. Et voilà.
Et bien du coup, merci beaucoup, Aliénor, de nous rappeler ça. Et maintenant, on s'approche de la fin de cette émission. C'est pour ça qu'on va passer aux recommandations.
Déjà.
C'est toi, Marilou, qui va ouvrir le bal.
Du coup, ma recommandation, c'est un comédien et auteur belge qui s'appelle Félix Radu, qui diffuse ses chroniques sur la radio, sur la station radio belge La Première. Et je suis littéralement tombée amoureuse de ce texte. Vraiment.
C'est si bien que ça.
Ouais, franchement, ouais. Okay. Et en plus, parfois, il y a certaines personnes qui font des montages avec des petites musiques toutes douces. Enfin, c'est vraiment et c'est hyper inspirant parce que bon. J'ai eu une période un petit peu compliquée ces derniers temps. Et franchement, écouter ces textes, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait un petit baume au cœur. Et franchement,
tout le monde en a besoin.
Ouais, tout le monde en a besoin, surtout dans cette période un peu compliquée. Mmh. Et si vous voulez, on va vous mettre un petit extrait du texte « Alors je ferai ce qu'il faudra ». Voilà.
Alors, je ferai ce qu'il faudra pour exister. J'arpenterai le monde, apprendrai ses reliefs et ses profondeurs. Je veux tout connaître de lui, le dévorer d'une insatiable faim et l'aimer pour ce qu'il est, pour ce qu'il n'est pas, pour ce qu'il devrait être, et retrouver dans les montagnes la courbure d'une hanche, et dans l'océan l'abîme d'une larme, et dans l'horizon l'infini d'un sourire. J'apprendrai les règles de l'univers, je les contournerai sans cesse. Je déploierai la plus terrible des forces à lui désobéir. Je le forcerai à concéder, à faire naître des étoiles nouvelles. Et comme le prisme fait naître de la lumière blanche les couleurs primaires, mon cœur fera surgir de silence le bruit, le cri terrible et indomptable de l'homme.
Du coup, c'était un petit extrait de « Alors je ferai ce qu'il faudra » de Félix Radu.
Ok. Ben faudra que j'aille voir parce que moi aussi je me mets à écouter beaucoup de trucs à la radio. Donc ça me fait plaisir que tu recommandes ce genre de choses. Mais moi pour cette semaine j'avais envie de parler d'un truc qui est très connu, enfin moins en France mais c'est un gros truc en tout cas en Amérique. C'est, alors je sais pas si je vais avoir des réactions autour de la table, mais le SNL, le Saturday Night Live, et je n'ai aucune réaction autour de la table. Donc...
Oh mince alors, il voulait une réaction.
Waouh, ce ton que t'as pris. Oh mince alors, Lucas, c'est nul ce que tu fais.
J'ai rien à dire.
Non, je sais, je t'embête. Le Saturday Night Live, c'est en gros un sketch show, en fait, américain, avec plein de gens, ça change un peu tout le temps, et il y a surtout beaucoup de stars, c'est présenté par des stars, et c'est juste hilarant, en fait. C'est un sketch show, pour expliquer un peu ce que c'est une émission entièrement constitué de sketchs. Le Palma Show l'a fait un peu sur C8 à l'époque et sur TF1. Et c'est ça, sauf que les sketchs, certains sketchs en tout cas, sont faits en live en fait, sont faits devant audience. Et je trouve ça hilarant, ça m'a fait beaucoup rire. Ça s'appelle le SNL, le Saturday Night Live sur YouTube. Et si vous voulez une petite reco à l'intérieur de la reco, le personnage de Chad est hilarant.
Ok, fortement le personnage. Chad, drôle. D'accord.
Chad égale drôle. C'est aussi simple que ça. Et du coup, à toi, Aliénor, de nous parler ce qui t'a plu cette semaine.
Alors, moi, je vais vous parler d'une BD qui existe depuis très longtemps. Roulement de tambour.
Voilà, fais-le.
C'est Mélusine.
Mélusine.
Merci.
La BD ?
Oui, la bande dessinée. Donc du coup, Mélusine, c'est une bande dessinée belge qui a été faite par l'artiste Clark et par l'écrivain Wilson, donc ils se sont mis ensemble pour sortir cette BD qui est géniale. Oh, oh là là. C'est tout public, c'est accès. C'est trop trop bien. Donc c'est des courtes histoires qui se suivent à la chaîne. Mm-hmm. Et ça parle d'une sorcière qui vit au pair dans un château et elle étudie à l'école des sorcières. Donc la première parution de cette BD, c'est en 1992 dans le magazine Spirou. Okay. Donc c'est un peu le lien entre les deux, quoi.
C'est dans le même monde. C'est le même univers, si je veux dire.
C'est pas vraiment le même univers, mais ça a été vraiment dans Spirou, avec Spirou et Fantasio, que Bingzine a été connu.
Ok,
quoi.
D'accord. Okay.
Après, ça s'est développé depuis 1995. Les bandes dessinées Bingzine, elles sont publiées par la maison Dupuis. Donc ça, c'est une grosse maison d'édition. Et il existe 27 tomes. Et donc, je vais vous citer un peu les personnages principaux. Okay. Mélusine, c'est une sorcière. Après, il y a sa cousine Mélisande, la fée, qui n'est pas très futée. Il y a Adrazel, qui est la tante de Mélusine et qui l'aide parfois pour certaines potions. Okay. Il y a sa meilleure amie, qui s'appelle Cancrelune, qui n'est pas très futée non plus et qui est très maladroite. Après, il y a le comte, il y a un vampire qui est un comte. Et ça, il s'appelle Gonzaga Ernivans.
Wow.
Ouais. Il y a Winston, qui est un serviteur. Il y a le professeur Hasselbat, sur qui il aime bien crier sur tous les élèves.
Ok.
Et il y a la fantôme duchesse, Amy, deux personnes, qui aime bien donner des ordres et que tout soit propre dans son château. Voilà.
Wow. Mais on a des recommandations de tous bords. Hein. On a de la radio, de la vidéo et une BD. C'est super.
Exactement. Ah bah ouais, il en faut pour tout le monde, quoi.
Et
tout à fait.
Et du coup, pour la première fois, je pense, depuis le début de cette émission, on va laisser un peu la parole à nos invités d'Ivre d'équilibre qui vont nous parler un peu de leur reco.
Ouais.
Ce qu'ils veulent nous parler.
Alors, pour ma part, une recommandation que je peux faire, qui peut intéresser surtout les amateurs de manga et d'anime.
Mm-hmm.
C'est la seconde saison de The Promised Neverland, qui est actuellement disponible en simulcast sur Crunchyroll et Wakanim, qui sont des sites de streaming.
Mm-hmm. Qui sont payants.
Oui, mais il y a possibilité de visionner les épisodes gratuitement sur ces mêmes sites.
Ok. Voilà,
pour faire un court synopsis, c'est l'histoire d'un orphelinat qui se trouve dans un monde où les créatures se nourrissent d'humains.
Oui.
Et certains enfants à l'intérieur de cet orphelinat vont élaborer un plan afin de s'en échapper. Et on suit leur parcours jusqu'à trois petits points.
Oui,
la suite.
Pas de spoil autorisé.
Okay.
Non, en plus, je pense que s'il y a des auditeurs qui regardent cet animé qui tentent de spoiler, je pense qu'ils vont taper juste après.
Donc exactement.
On va aller chercher perso.
Le spoil est interdit.
Ça va être terrible.
Ils vont
venir chercher à Ivre d'équilibre, ça va être terrible.
Et moi, je vais recommander la série The Man in the High Castle.
Oui.
Et c'est...
sur Amazon Prime.
Voilà, sur Amazon Prime. Ou Prime Video, c'est peut-être pareil.
La
je sais pas.
Streaming d'Amazon.
Moi, je la regarde en streaming. Mm-hmm. Voilà. Et du coup, c'est une série que j'ai découverte avec mon UEO, qui s'appelle Héritage historique européen et mémoire citoyenne. Mm-hmm. Voilà, où on étudie du coup la Shoah par balle. Et du coup, cette série, pour faire un petit synopsis... C'est le monde si les nazis avaient gagné. Mmh. Du coup, on voit une Amérique sous oppression nazie. Mmh. Je suis qu'au début, mais c'est vraiment
ça
stimulant.
Bien,
ouais. Oh ouais,
c'est
très
intéressant.
Super intéressant. Mmh. Eh bien, ce sont des recos de tous bords, comme je disais tout à l'heure. On a vraiment des livres et tout, c'est super. Mais avant donc de clore cette émission, j'aimerais d'abord que Ivre d'équilibre nous rappelle un petit peu l'événement qui
bien
aura
sûr.
Lieu.
N'oubliez pas Circus Party le 15 avril, jeudi 15 avril de 14h à 18h. Les inscriptions sont ouvertes au mail mf12270@icloud.com. Vous êtes tous les bienvenus. Merci.
Ça, on est à retenir ça.
Eh ben, c'est noté. Merci d'avoir participé à cette émission. Et on dit aux auditeurs et aux auditrices à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Ciao.